Alors, les sources de cette semaine nous dessinent un tableau vraiment fascinant et plein de contrastes.
Oui, c'est ça. D'un côté, on a un Maroc en pleine ébullition, beaucoup de créativité, des grands projets.
Et de l'autre, des nouvelles du reste du monde qui montrent un système sous très haute tension.
Exactement.
Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre comment ces deux dynamiques, une de construction et une de friction, peuvent coexister.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'applique à toutes les échelles. On va parler de festivals qui unissent un pays, de conflits qui paralysent des régions.
Pour finir par quelque chose de beaucoup plus intime.
Voilà, on va explorer cet écosystème incroyable et pourtant invisible qui est à l'intérieur de nous. C'est une plongée dans la notion d'équilibre, en fait, qu'il soit culturel, géopolitique ou biologique.
Commençons donc par cette effervescence au Maroc. Le mois de novembre 2025 s'annonce particulièrement intense. On a repéré trois événements. Le premier, c'est Visa for Music à Rabat.
La 12e édition déjà.
Déjà, oui.
Et c'est bien plus qu'un simple festival, hein. C'est devenu le rendez-vous incontournable pour les professionnels de la musique d'Afrique, du Moyen-Orient.
C'est un peu un marché des talents.
C'est ça. C'est là que les carrières se font, que les contrats signent. Un vrai carrefour.
Et ça démarre fort avec une grande parade qui part du musée d'art moderne. J'aime bien cette image de la culture qui sort des murs, qui va dans la rue.
Oui, c'est très symbolique. Mais au-delà du côté festif, il y a un message politique cette année.
Ah oui?
Oui, et il est fort. L'édition rend hommage aux pays africains lusophones pour les 50 ans de leur indépendance. C'est une façon pour le Maroc de se positionner comme un hub continental.
De créer des ponts.
Voilà, pas seulement avec l'Europe, mais au sein même de l'Afrique. Et en même temps, on honore des légendes comme Sékouba Diabaté ou Didi Awadi pour montrer que l'avenir se construit sur cet héritage.
D'accord. On passe de ce festival très tourné vers l'Afrique à une célébration beaucoup plus nationale, plus au sud, à Guelmim.
Le 50e anniversaire de la Marche verte.
Là, l'ambiance doit être complètement différente.
Radicalement. Guelmim, la porte du Sahara, se transforme en une immense scène à ciel ouvert. On parle de concerts géants avec des pointures comme le Malem Hamid El Kasri.
Mais pas que de la musique.
Non, il y a des expos et même des démonstrations aériennes. Le but, c'est de commémorer un événement qui a vraiment fondé l'identité marocaine moderne et de souder ce sentiment d'unité nationale. C'est l'histoire avec un grand H.
Et le troisième volet de ce triptyque, c'est à Casablanca, le festival Jadwa Wakalam.
Trans et paroles.
Rien que le nom, on sent qu'on est dans quelque chose de plus immatériel.
Exactement, on est au cœur du patrimoine spirituel, artistique. C'est un mélange de poésie, de musique, avec des genres très puissants, comme le gnawa, bien sûr, mais aussi le gaïwani.
Le Gaïwani, c'est ce courant un peu contestataire des années 70. Hein.
C'est un peu nos protest songs marocaines, oui. C'est fascinant de les voir dialoguer.
On parle beaucoup de transmission dans ce festival. Concrètement, ça se passe comment, au-delà des hommages comme celui rendu au professeur Othman Ben Alala?
C'est une bonne question. Et je crois que l'initiative la plus parlante, c'est la mise en avant de jeunes talents qui utilisent le numérique, comme la page Instagram Jnawa Journey.
Une page Instagram pour préserver le patrimoine. Ça peut paraître un peu léger.
On pourrait le penser, mais en fait, c'est un changement de paradigme. Le patrimoine n'est plus juste un objet de musée qu'on dépoussière. Il devient un contenu vivant, partageable, qui crée sa propre communauté en ligne.
La transmission ne se fait plus seulement de maître à élève.
Mais de créateur à follower. C'est ça la modernité, le brancher sur le monde d'aujourd'hui.
Donc, si je résume, on a un Maroc qui est un carrefour pour l'Afrique, un Maroc qui célèbre son unité et un Maroc qui réinvente la transmission de ses traditions.
Et quand on met tout ça ensemble, ça raconte une vraie stratégie. La culture n'est pas un simple divertissement, c'est un outil de soft power, de cohésion.
C'est une vision très volontariste. Voyons si on retrouve cette même énergie dans les chantiers plus concrets du pays. Et la première bonne nouvelle, elle vient littéralement du ciel.
Ah oui, ça. Après des années de sécheresse terrible pour l'agriculture, les pluies d'automne sont enfin là, et en abondance.
C'est une bouffée d'oxygène.
Immense. Pour tout le secteur, les sols se gorgent d'eau, les barrages commencent à se remplir. C'est un retour à l'équilibre pour la terre. On en avait grandement besoin.
Ce mot équilibre. On sentait que le pays était au bord de la rupture sur ce plan. Et cette bonne nouvelle est suivie d'annonces assez spectaculaires dans les infrastructures, non?
Oui, on parle d'un investissement de plus de 78 milliards de dirhams pour le transport public propre d'ici 2029.
Le chiffre est colossaleux.
Il l'est. Pour donner une idée, rien que pour la région Casablanca-Settat, c'est 25 milliards. Pour acheter presque 4000 bus nouvelle génération, étendre le tram, créer des lignes de RER.
L'idée, c'est de changer complètement la façon dont les gens bougent dans les grandes villes.
C'est ça. Moins de temps dans les bouchons, moins de pollution, une meilleure qualité de vie. Mais c'est aussi un pari économique. Des transports efficaces, ça rend une métropole plus attractive.
C'est une pièce maîtresse, en fait.
Une pièce maîtresse pour une économie moderne.
Et cet avenir moderne est aussi numérique, j'imagine. Je pense à l'inauguration du nouveau data center d'Orange, Orange Tech.
Oui, à Bouskoura.
On entend beaucoup parler de souveraineté numérique. Est-ce que c'est vraiment une question d'indépendance ou c'est juste un bon argument marketing?
C'est les deux, en fait. Pour une entreprise, avoir ses données hébergées localement, sous la loi marocaine, c'est un avantage compétitif énorme.
Et pour l'État?
Pour l'État, c'est stratégique. Ça veut dire que les données sensibles du pays, enfin les données des administrations, des entreprises stratégiques, eh bien elles ne sont plus stockées je ne sais pas où, à Dublin ou en Virginie.
On reprend le contrôle.
C'est une brique essentielle du plan Maroc Digital 2030. C'est reprendre le contrôle, quoi.
C'est impressionnant. On a une agriculture qui respire, des transports qui se transforment, un numérique qui se fortifie, et pour couronner le tout, une reconnaissance majeure en santé publique.
Oui, l'OMS vient de reconnaître officiellement que le Maroc maîtrise l'hépatite B. Et ça, ce n'est pas un coup de chance.
C'est le résultat d'un long travail, j'imagine.
D'une politique discrète mais acharnée, qui a commencé il y a des décennies. Vaccination systématique de tous les nouveau-nés, le suivi des femmes enceintes, c'est une victoire de la méthode et de la patience.
C'est fascinant de voir cette énergie constructive. Mais quand on lève les yeux de ces chantiers, on a l'impression que le reste du monde est en pleine zone de turbulence.
C'est le moins qu'on puisse dire. Prenez le salon aéronautique de Dubaï.
La grande vitrine.
La grande vitrine de la puissance technologique et militaire, oui. Et cette année, la Russie y joue gros. Malgré les sanctions, elle vient présenter son joyau, le chasseur furtif Su-57.
Pour trouver de nouveaux clients.
Pour séduire de nouveaux clients. Exactement. C'est une opération de survie économique et d'influence.
Une démonstration de force qui côtoie le drame. Parce que le même jour, un avion de chasse indien, un Tejas, s'écrase.
En pleine démonstration.
La scène, filmée, partagée partout. Ça a dû jeter un froid.
C'est une métaphore presque parfaite de notre époque. On pousse la technologie à ses limites pour le spectacle, pour le pouvoir, mais on oublie sa fragilité. L'image de la puissance peut se fracasser au sol en un instant.
La démonstration de force devient une démonstration de vulnérabilité.
Exactement.
Autre zone de friction, plus économique cette fois, entre la Chine et le Japon. Tout part de déclarations de la première ministre japonaise sur Taïwan.
Et la réaction de Pékin est immédiate.
Et brutale.
Mais pas sur le terrain militaire, non, sur le terrain économique. Le chiffre est ahurissant. Près de 491 000 billets d'avions de touristes chinois vers le Japon annulés en quelques jours.
491 000 ?
Oui. À un moment, on comptait 27 annulations pour chaque nouvelle réservation. C'est énorme.
Ce n'est plus un message diplomatique à ce niveau. C'est une arme économique pointée sur le tourisme japonais.
C'est exactement ça. Les flux touristiques et même culturels des sorties de films japonais ont été déprogrammés en Chine. Tout ça devient des leviers de pression.
Et puis, il y a une autre guerre, plus souterraine, plus proche de nous. À Marseille, un jeune homme de 20 ans, Mehdi Kessassi, a été assassiné.
Oui, et le mobile est particulièrement glaçant.
Ce n'est pas un règlement de compte classique entre dealers.
Non. Il a été tué en représailles contre son frère Amine Kessassi, qui est un militant anti-drogue très connu à Marseille. Il a fondé une association après la mort d'un autre de ses frères.
C'est terrible. On s'attaque à la famille de ceux qui osent parler.
Le ministre de l'Intérieur parle de crimes d'intimidation, d'un nouveau degré d'emprise des trafiquants.
Ça marque un basculement.
Oui. C'est une stratégie de la terreur pour imposer le silence. Loin des chasseurs furtifs, cette guerre-là se mène aux fusils d'assaut dans les cages d'escalier. Et elle vise à briser le tissu social lui-même.
On a parlé de systèmes géopolitiques, économiques, sociaux, tous ces grands mécanismes externes. Et si le système le plus déterminant pour notre état d'esprit se trouvait en fait à l'intérieur de nous?
C'est un domaine de recherche qui est en train d'exploser.
Le fameux second cerveau.
C'est ça. On a longtemps pensé que notre cerveau était le seul maître à bord. Et on découvre qu'il est en conversation constante avec les milliards de micro-organismes qui peuplent notre intestin. C'est notre microbiome.
Et cette conversation, elle passe par une sorte d'autoroute, Le nerf vague?
Exactement. Mais ce qui est fou, c'est la nature des messages échangés.
J'ai un chiffre qui m'a complètement scotché. Environ 90% de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans nos intestins.
Pas dans notre tête, dans notre ventre.
C'est dingue.
C'est une révolution dans notre compréhension des émotions. Ça veut dire que l'équilibre de nos bactéries intestinales peut directement moduler notre humeur. Prenez l'anxiété.
Oui.
Un déséquilibre, ce qu'on appelle une dysbiose, peut faire chuter la production de sérotonine, mais aussi de GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un frein sur le système nerveux.
Donc moins de freins, plus de stress.
En résumé, c'est ça.
Attendez, ça me paraît presque trop simple. Est-ce que ça veut dire que si on procrastine, si on manque de motivation, ce n'est pas de la paresse, mais juste un problème de...
Ah, boss !
De bactéries. Ah.
C'est une excellente question. Il ne s'agit pas de dire que la volonté n'existe pas, que tout est biologique, mais plutôt que cette volonté a besoin d'un carburant.
La dopamine.
La dopamine, le neurotransmetteur de l'élan, de l'envie. Or, certaines de nos bactéries aident à produire ces précurseurs. Vous pouvez avoir la plus belle voiture de course du monde. Si le réservoir est vide, elle n'avancera pas.
C'est une bonne image.
C'est un peu pareil pour la motivation.
C'est fou, ça me fait penser à toutes ces expressions « avoir les tripes nouées par le stress » ou « prendre une décision avec ses tripes ». La sagesse populaire avait une longueur d'avance.
Complètement. Ce ne sont pas que des métaphores. Elles décrivent une réalité biologique, ce dialogue permanent. Et ça va jusqu'à la fatigue.
Ah oui, même la fatigue?
Un microbiome déséquilibré peut entraîner une inflammation chronique de bas grade, une sorte de bruit de fond inflammatoire qui épuise le système, perturbe le sommeil. C'est pour ça que des ballonnements peuvent être liés à une fatigue inexpliquée ou à un sommeil agité.
En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que la santé mentale n'est pas qu'une affaire de psychologie. C'est aussi une affaire de gastro-entérologie.
C'est un peu ça, oui. C'est le grand changement de perspective. Notre humeur n'est pas une abstraction. Elle est ancrée dans notre biologie. Et ça ouvre des pistes incroyables sur l'impact de notre alimentation sur notre bien-être.
Ça nous rappelle que l'écosystème le plus important pour notre équilibre est peut-être celui qu'on ne voit pas.
Exactement.
Quel parcours ! On est parti des grands projets marocains, on a traversé les zones de fracture du monde pour atterrir dans l'univers invisible de notre microbiome.
Le fil rouge, c'est cette idée de systèmes interconnectés, à toutes les échelles.
D'un côté, des efforts de construction, de création de liens, les festivals, les transports.
De l'autre, des dynamiques de rupture, les tensions géopolitiques, la violence ou un simple déséquilibre microbien qui génère de l'anxiété.
Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non?
Oui. À l'ère de l'interconnexion, où tout affecte tout, la construction la plus solide, la plus durable, n'est-elle pas finalement celle qui se concentre avant tout sur le soin des équilibres? Qu'ils soient diplomatiques, sociaux ou simplement biologiques?